franceinter.fr.
C'était le 20 janvier dernier, des chercheurs américains annonçaient avoir des preuves sérieuses de l'existence d'une neuvième planète dans notre système solaire, mais sans préciser sa position dans le ciel.
Alors, apparemment, il devrait y avoir une neuvième planète qui se balade dans notre système solaire. Ce serait cool, non? Vous vous souvenez? Mercure, Terre, Mars, Saturne, tout ça, tout ça. Pour le moment, elle s'appelle Planète 9, ou neuvième planète en français. Selon les calculs, Planète 9 devrait faire le tour du Soleil en environ 15 000 ans. Pour rappel, la Terre, c'est un an. C'est pour ça qu'on a du mal à la trouver, d'ailleurs. Tout ça n'est qu'une hypothèse. Mais ne vous en faites pas, la NASA est sur le coup.
Et en l'occurrence, c'est pas la NASA, hein, mais une équipe de chercheurs français qui a frappé la première en publiant donc les premiers résultats dans la revue Astronomy et Astrophysics le 19 février. Grâce aux données de la sonde Cassini en orbite autour de Saturne, ils ont réussi à déterminer des zones de recherche où la présence de cette planète serait probable. Bonjour Agnès Fienga.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur, co-auteur de cette publication avec Jacques Lascar, et puis en studio avec nous Philippe Hénarejos pour Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
On se voit beaucoup cette semaine. On a plein de choses à dire après les ondes gravitationnelles. Vous pouvez nous faire un petit rappel sur cette planète, alors on l'appelle quand 9G
Pour l'instant, on l'appelle, P9, on l'appelle pas, on l'a pas encore quand même, ouais. Cette planète, je vous le rappelle. Donc simplement, il y a des chercheurs américains qui ont étudié l'orbite de 6 objets assez gros qui se trouvent bien au-delà de Neptune et qui sont sur des orbites elliptiques et qui sont en gros tous tournés un peu du même côté du Soleil. Mmh. Et cette disposition-là leur faisait dire qu'elle ne pouvait intervenir que si un corps plus massif et plus lointain les perturbait pour les aligner en quelque sorte. Ouais. Donc, déduction, il y a forcément une planète de 10 masses terrestres très très loin sur une orbite très elliptique. Sauf que là, c'était de la mécanique céleste, mais c'était très imprécis. On ne sait pas sur cette orbite supposée où se trouve cette planète. Ce qui fait que si on veut la rechercher, il faut chercher partout dans le ciel, sur 360 degrés à peu près dans le plan du système solaire, on va dire. Et là, ce qu'apportent les chercheurs français, c'est vraiment de la mécanique céleste. Alors là, on rentre dans les engrenages de la montre que représente le système solaire pour étudier vraiment où pourrait être cette planète. Alors, la méthode est légèrement différente, c'est-à-dire qu'on mesure la trajectoire de planètes connues, en l'occurrence Saturne, et on la mesure très précisément grâce à une sonde qui s'appelle Cassini, qui est en orbite autour de Saturne depuis 2004. Et on sait à 100 mètres près la distance de cette sonde depuis 2004. Donc on a une trajectoire très précise. On sait ça parce qu'il y a des émissions radio qui sont envoyées et reçues de cette sonde-là. Donc on mesure la distance en permanence. Et en regardant comment se comporte Saturne, on essaie de déduire s'il y a une perturbation gravitationnelle qui vient de l'au-delà. C'est comme le Verrier qui, à l'époque, en 1846, avait regardé l'orbite d'Uranus. Alors lui, il n'avait pas de sonde, il faisait ça avec un télescope. Et il disait, il y a une perturbation et je déduis qu'il doit y avoir une planète au-delà. C'était Neptune. Et il a dit, cherchez à cet endroit. Les gens ont cherché, ils l'ont trouvé.
Agnès Fienga, vous avez donc participé à la recherche de cette planète. D'abord, comment est-ce que vous avez eu envie de vous mettre sur cette piste-là exactement? Ça fait combien de temps que vous cherchez?
Ça fait un moment qu'il y a cette théorie de, enfin, disons ces hypothèses de neuvième planète qui tournent un peu dans le milieu. Pour tout vous dire, ça avait commencé il y a longtemps, c'était en 92 les premiers papiers là-dessus. Et puis là, dernièrement, en 2014, justement, parce que on a eu ces 6 objets qui ont été observés, et puis des chercheurs ont montré qu'en fait, cette espèce d'orientation bizarre de ces objets-là, n'était pas un effet observationnel, mais c'était vraiment véridique. Enfin, c'était quelque chose qui était lié à la géométrie de leur orbite. Du coup, on a commencé à travailler là-dessus en 2014. Petit à petit, on avait déjà en fait un modèle d'orbite des planètes du système solaire qui existe depuis 2003, sur lequel on travaille depuis 2003. Donc on s'est dit on va essayer justement d'ajouter cet objet supplémentaire pour voir si ça perturbe l'orbite de Saturne. Donc en fait j'étais justement en train de commencer à la rédaction d'un papier sur ce sujet-là quand le papier des Américains de fin janvier est sorti.
Et donc du coup ça vous a aidé aussi parce que ça vous a permis de modifier un tout petit peu vos recherches ou pas?
Disons que ça nous a permis d'avoir un éclairage particulier sur un certain type d'orbite, l'orbite que les Américains proposent. Et du coup, en fait, on a eu très vite l'occasion d'appliquer tout ce qu'on avait développé sur ce cas-là, sur ce cas particulier-là d'orbite. Et ça nous a permis d'avoir des résultats relativement immédiats. Sachant qu'en fait, nous, l'idée qu'on avait, c'était de chercher vraiment dans plusieurs types d'orbites, plusieurs familles d'orbites possibles. Mm-hmm. Donc voilà. C'est pour ça qu'on a pu réagir aussi rapidement, c'est parce que
c'est ça.
On avait déjà tout en place pratiquement. Quoi.
C'est ça. Mais ça doit être très excitant comme travail à faire, sauf que vous recherchez une aiguille dans une botte de foin là quand même, hein. Et encore.
Oui, absolument. C'est effectivement, c'est excitant parce qu'il y a une compétition avec nos collègues américains. parce qu'en plus, on utilise des données qu'eux ont produit. Donc, mais oui, effectivement, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est les relations qu'on peut avoir avec nos collègues observateurs, puisque là, il faut qu'on affine la zone qu'on a plus ou moins déterminée. Et, donc, il faut voir avec eux les magnitudes limites, c'est-à-dire jusqu'à combien la brillance de la planète peut être visible par les gros télescopes actuellement disponibles. Donc, il y a une interaction, une excitation, effectivement, sur ces genres de questions qui est réelle. Ouais.
Ouais, je me souviens, vous étiez très réservé, Philippe, quand même, au sujet de cette neuvième planète. Hein. Vous disiez, attention, là, on s'affole, mais c'est pas du tout sûr qu'elle existe.
J'étais réservé sur le fait que certains annonçaient, ça y est, on l'a trouvée.
Ouais.
C'est pas le cas. Elle reste hypothétique tant qu'on n'aura pas la photo, excusez-moi.
Ouais.
On n'aura pas découvert cette planète. Maintenant, les travaux, aussi bien de l'équipe américaine que de l'équipe française, sont très sérieux. C'est des hypothèses sérieuses de travail.
Agnès Changa, vous pouvez nous expliquer alors dans quelle zone pourrait se trouver, parce que vous avez réduit de 50%, c'est quand même pas si mal, mais ça reste quand même immense. Comment vous allez pouvoir affiner encore les calculs là?
En fait, là, ce que disait le monsieur juste avant est tout à fait juste, c'est-à-dire que là, en fait, on a limité la zone à une orbite proposée par les Américains, mais c'est une orbite parmi tant d'autres. Et si on retourne à leur papier, en fait, ils le disent eux-mêmes, c'est une proposition, mais en fait, il y en a beaucoup qui pourraient coller un peu à leur affaire, à cette explication d'orbite un peu confinée dans une zone de l'espace pour ces objets très lointains. Donc, on a encore beaucoup de travail, en fait, parce qu'il faut qu'on explore justement plus d'orbites, qu'on voit jusqu'où on peut aller. On attend aussi des données qui vont nous aider, en fait, à mieux contraindre l'orbite de Saturne. Ce sera des données qui seront produites par une sonde qui s'appelle Junon, qui va arriver aux alentours de Jupiter cet été. Donc, en connaissant mieux Jupiter, on connaîtra mieux Saturne, et donc ça nous aidera à mieux contraindre et donc à encore réduire la zone où on pense que la planète n'est pas. Parce qu'en fait, c'est plutôt comme ça qu'on raisonne, finalement. On a déterminé des zones dans lesquelles on sait que la planète n'est pas actuellement. Parce que sinon, elle perturberait beaucoup trop l'orbite de Saturne, et on l'aurait vu dans les observations de Cassini. Donc, avec les données Juno, on pense pouvoir étendre cette zone d'exclusion. On a fait quelques simulations en proposant de prolonger la mission Cassini, en montrant que si on la prolongeait jusqu'en 2020, on réduirait encore cette zone. Donc, c'est plusieurs pistes en fait qui s'offrent à nous, l'ajout de données plus précises et puis l'exploration de d'autres orbites probables, enfin ou hypothétiques.
Philippe, pour terminer.
Moi, j'ai juste une question. Est-ce que vous savez si Mike Brown, l'astronome américain qui a annoncé l'existence de cette planète et qui cherche avec le télescope Subaru, se sert déjà de vos résultats pour pointer son télescope plutôt dans cette direction que dans une autre?
Bah, disons qu'on a eu, Batygine, donc le premier auteur qui travaille avec Mike Brown, qui nous a contactés et qui nous a dit qu'en fait ils étaient en train d'explorer d'autres orbites et ils nous ont proposé de valider les hypothétiques autres orbites qu'ils trouveraient avec notre méthode. Donc voilà.
Bon, écoutez, Agnès Changa, on espère boire le champagne avec vous un jour quand même, ce serait formidable. Vous vous rendez compte, si vous pouvez annoncer la découverte de cette neuvième planète, c'est pas pour tout de suite quand même, hein.
Non, je pense qu'il y en a encore au minimum quelques mois devant nous.
Oh oui. Bon, en tout cas, dès que vous l'avez découverte, vous nous appelez tout de suite. Hein. On se déplace, on vient vous voir, on fait une émission spéciale. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le fêter avec vous. En attendant, bonne recherche, bon courage.
Merci
beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Philippe. À très bientôt.
À la prochaine fois.
Avec le ciel et l'espace. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la photosynthèse n'est pas uniquement liée à l'ensoleillement. Si les forêts connaissent un pic de 27% de leur activité photosynthétique à certaines périodes de l'année, bien c'est surtout grâce aux jeunes pousses. Les caméras d'une équipe internationale ont pu détecter les échanges de CO2 au niveau de la canopée à 4 endroits différents de la forêt amazonienne. Et les chercheurs ont observé que ce sont en fait les jeunes feuilles qui poussent en période sèche qui absorbent le plus de CO2 et qui synthétisent donc le plus d'énergie. l'énergie solaire. Une belle avancée dans l'étude de l'impact du réchauffement climatique sur la végétation, publiée dans Science. La première greffe utérine en Amérique a été réalisée avant-hier dans l'Ohio. Après 9 heures d'intervention, la patiente de 26 ans est aujourd'hui dans un état stable. Cette opération novatrice avait déjà été couronnée de succès en Suède il y a 3 ans. La première femme greffée a déjà pu accoucher d'un premier enfant. La greffe utérine permettra à terme de soigner 3 à 5% des femmes dans le monde qui souffrent d'infertilité. Et puis les gorilles chantent en mangeant. Des ornithologues allemands ont étudié cette curieuse habitude qu'ont leurs portionnaires. Ça devait être des primatologues d'ailleurs en l'occurrence. Elle leur servait à informer leurs congénères que le repas n'est pas terminé, en plus de signifier leur contentement gustatif. Écoutez ce que ça donne. Voilà, les gorilles qui chantent en mangeant, un chant qui ressemble à la technique du bourdon en musique et qui varie selon l'âge et le sexe des gorilles. Même le goût des aliments aurait un impact sur la tonalité et la puissance du son. Ainsi, les mâles et les adultes chantent plus volontiers que les femelles et plus jeunes, puisqu'ils ont moins peur des prédateurs. La vidéo de ce repas chantant est en ligne sur le Twitter et le Facebook de la Tête au Carré.